Amis du RH, bonjour. Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain ? Préparez vos AirPods, c'est parti ! Aujourd'hui, on va parler neurosciences. Et comme la dernière fois, j'ai de nouveau la chance et l'honneur d'accueillir Guillaume pour parler de ce sujet et pour voir comment on peut adapter les neurosciences au RH. Salut Guillaume, comment ça va ?
Bien toi le barbu.
Le barbu, je te renvoie le compliment. Bienvenue pour ce nouvel épisode ensemble. La dernière fois, on a parlé des biais dans les RH et comment on pouvait les éviter. Et aujourd'hui, on va surtout parler de comment les neurosciences vont pouvoir accompagner les RH dans les années à venir. Donc je pense que tu es plutôt la personne idoine pour en discuter. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode ou qui ne te connaîtraient pas, je vais te laisser te présenter en quelques mots.
Me présentant en quelques mots, donc Guillaume Mathias, le titre très pompeux hein, que j'aime utiliser par fierté, c'est expert en neurosciences et sciences cognitives.
Mais c'est pas si pompeux que ça finalement, expert en neurosciences et sciences cognitives.
Ah, je te jure, à l'apéro, ça marche.
C'est vrai, ça raconte de ça ouf. Marche. Les gens après ils se disent, ce mec-là, il est hyper intelligent.
Ouais, le truc, c'est qu'on ne comprend pas ce que je fais. Donc, c'est pour ça, une fois qu'on a compris ce que je fais, de suite, ça. Non, mais derrière, effectivement, ce titre-là, c'est de comprendre comment un individu perçoit son environnement et comment il s'y adapte, d'un point de vue à la fois neurologique et cognitif. Donc, comment le cerveau va traiter les flux rentrants et comment on va venir s'adapter à cet environnement-là. Et puis, il me semble un petit peu que dans les RH, ça a un peu de sens, puisqu'on va amener un individu dans un nouvel environnement. Donc, en comprenant comment l'individu fonctionne et comment il s'adapte à un environnement, on commence à avoir des leviers d'action qu'on n'avait pas avant.
Et alors, pour en dire un petit peu plus, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qui t'a amené aux neurosciences ?
Tout !
ça m'intéresse. T'étais pas prêt ! Il n'était pas prêt. Faut dire à tout le monde, il n'a rien révisé. Donc là, c'est du freestyle complet. Hein. Donc,
je vais découvrir les questions au fur et à mesure.
Il n'était pas prêt.
Qu'est-ce qui m'a amené aux neurosciences ? Très tôt... J'avais grosso merdo, on va la faire très courte, hein, mais j'avais 16 ans et j'avais la possibilité de... J'avais cours que le matin, en fait. J'étais dans un lycée un peu particulier où j'avais cours que le matin. Et j'ai découvert qu'en traversant la rue, je pouvais me taper l'incruste dans les cours d'amphi de la faculté de psycho de Bordeaux. Et donc, j'ai commencé à être le passager clandestin dans les amphis. Et puis, j'ai fait ce que je savais faire. Quand un sujet me passionne, je prends des notions et j'en fais une systémie. Et puis, vu que j'étais en électron libre, j'ai pu aller dans les sciences comportementales, l'ethno, l'entrepôt, et j'en passe. Et je me suis aperçu que chaque branche bossait en silo, en fait. Et n'avait pas forcément les mêmes termes. Mais quand tu fais une analyse systémique, une fois que tu rattaches tes étiquettes, que tu as compris que quand l'un l'appelle comme ça, chez l'autre, ça s'appelle comme ça, tu peux les rattacher, ça te fait des logiques transversales qui sont fantastiques à explorer. Et ça a démarré comme ça.
Genre quand t'avais 16 piges, quoi.
Quand j'avais 16 piges, ouais.
Il y a des gens, tu vois, il y a des gens, je trouve ça fou. J'ai rencontré des gens qui voulaient devenir comptable, par exemple, expert comptable à 16 ans. J'ai rencontré des gens qui voulaient devenir RH à 16 ans, des choses que tu ne dis pas. Et toi, tu avais envie de faire des neurosciences à 16 ans, c'est pareil.
Envie, mais par contre, je n'avais jamais eu l'idée à ce moment-là que ça en ferait toute ma carrière. Moi, j'y suis allé en pure curiosité, en pure passion, en fait. Et ce qui est génial, c'est que je n'ai jamais quitté ma passion.
Trop cool. Bon, on va s'arrêter ta passion aujourd'hui pour voir comment on pourrait l'adapter au RH. Donc, première question. Est-ce que pour toi, les neurosciences peuvent définir les bons matchs entre les bonnes personnes ? Alors, on ne va pas te demander de nous sortir l'algorithme de Tinder, parce que ça serait au final à peu près ça.
Je l'ai craqué.
Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que y a des moyens, en fait, et ça découlera après de tout le sujet du jour, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui de pouvoir faire en sorte de créer des bons matchs, en fait, clairement, entre les personnes ?
Autre question ? Non, je ne sais pas. Non, est-ce qu'il y a moyen de faire des bons matchs ? je vais te faire des réponses vers son langue de bois, tu vas adorer. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un bon match ? C'est un peu le fond de la... En tant qu'individu, on s'adapte à un environnement. Donc déjà, pour moi, la première question, avant qu'il y ait un match entre les individus, c'est est-ce qu'il y a un match entre l'individu et l'environnement dans lequel on le met ? Ça, c'est la première chose. L'environnement, après, il va être défini par des dynamiques créées par les individus. Ok ? Donc, il va falloir réussir à adapter l'individu aux dynamiques, aux flux, à la façon de transmettre les informations, à la nature des informations qui sont créées, etc. Et ensuite, à l'individu qui est recruté par rapport aux individus qui sont déjà en place. Et là, c'est des dynamiques de groupe. Mais un bon match, c'est quelle est la finalité recherchée ? Par exemple, quelqu'un qui, on va faire simple, qui a besoin de temps pour appréhender les informations, pour se créer des systèmes de représentation cohérents qui lui permettent de pouvoir bien s'adapter, je vais éviter de mettre dans aux urgences du CHU, par exemple. Parce que non, là, tu n'as pas le temps d'appréhender quelque chose. En revanche, cette personne-là, dans un environnement où il faut faire de l'analyse derrière, prendre le temps de faire de l'analyse, faire le temps du compte-rendu, de la finalité d'usage, oui, là, effectivement, il y a moyen de pouvoir le positionner là-dedans. Donc, un bon match, pour moi, un bon match, c'est pas une solution universelle. Et parfois, ça peut être aussi nécessaire de mettre un individu dans un environnement où il est légèrement en difficulté, je dis bien légèrement, pour que cette difficulté-là soit le moteur de sa mise en mouvement.
Donc, pour toi, au final, tu ne peux pas faire matcher des personnes entre elles. Tu dois avant tout faire matcher des personnes avec un environnement pour qu'ensuite, après, elles puissent matcher entre elles. Donc, ça veut dire qu'au final, c'est-à-dire que... Non, mais j'essaye de comprendre ce que tu me dis.
Je vais te donner un exemple. J'en ai un qui vient me peuper à la tête.
Je t'ai ravi de mon truc, mais ça fait... Mais du coup, ça veut dire que potentiellement... Et je reprends la relation amoureuse. Et je la reprends à juste titre parce que pour moi, de toute façon, un match entre des personnes d'un point de vue recrutement, c'est comme une relation amoureuse, tu vois. C'est le même système global. Donc, ça veut dire que pour toi, deux personnes qui se retrouveraient dans un environnement qui ne serait pas... le bon environnement en termes de matching, même si elles étaient faites l'un pour l'autre, ne se retrouveraient pas.
C'est exactement ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu es venu me chercher là, avec ton exemple de Tinder. Ouais. Donc, tu m'as fait popper l'exemple parfait. T'as une date, ok ? T'es sur Tinder, bim, t'as une date, et on se retrouve sur une terrasse de café.
Ça nous est déjà arrivé déjà,
voilà, de se retrouver sur une terrasse de café. Je revois le wording. Donc tu te retrouves avec la personne sur une terrasse de café, mais l'environnement que vous avez envie de vivre, c'est clairement un moment hédoniste pur, pure folie, où clairement l'idée, c'est de ne pas connaître le nom ou le prénom de l'autre personne, tu vois. Juste un moment hyper éphémère. Tu vas attendre quelque chose, tu vas chercher des états de tension chez l'un et chez l'autre bien particuliers qui s'adaptent à cet environnement vraiment très hédoniste. Ou alors tu as une date sur Tinder, mais l'environnement que vous voulez créer, c'est une famille qui s'inscrit vraiment dans le temps. Tu ne cherches pas les mêmes états de tension. Pourtant, déjà, il faut que l'un et l'autre, parce que là, un environnement, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. On va d'abord nous s'en faire une idée de cet environnement, on va créer... l'idée de l'environnement dans lequel on s'adapte seul, et cette idée de l'environnement va le confronter avec celle des autres. Et si on arrive à harmoniser un environnement ensemble, il va falloir que les états de tension, ce qui nous met en mouvement les uns avec les autres, coïncident pour s'adapter correctement à l'environnement. Si par exemple, toi, tu étais parti sur une idée, je te sais, très romantique, donc sur l'idée d'une histoire passionnelle à la vie, à la mort et même après, et que la personne que tu rencontres à cette terrasse-là, l'idée c'est que demain matin 6h c'était un bon souvenir, les états de tension vont pas matcher entre les individus, et ces états de tension, c'est des sensibilités individuelles. Et donc là où on a un effort énorme à faire en neurosciences, c'est de comprendre comment sont déclenchés ces états de tension chez les individus et ce à quoi ils sont sensibles, généralement sensibles. Voilà. Donc l'environnement, si on reprend l'exemple de Tinder, l'environnement, c'est ce qu'on a envie de construire, en fait. C'est l'environnement, l'expérience qu'on a envie de vivre et ce à quoi on va venir s'adapter. Donc, et c'est la même chose sur une entreprise. Si on le ramène au monde de l'entreprise, une entreprise, si on a réfléchi bien, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la tête des gens. On prend ta boîte. Est-ce que ta boîte peut venir s'asseoir à table pour déjeuner ? Non. C'est des individus qui vont construire l'idée d'une entreprise, donc construire la représentation d'un environnement qu'on va essayer de partager collectivement et qui vont du coup créer des états de tension différents chez les individus, et il faut que ces états de tension les amènent à s'engager.
Mais du coup, ça vient à ma deuxième question, et c'est assez intéressant, mais j'allais te dire, est-ce qu'on peut se servir de ça pour créer l'équipe parfaite ? Mais si je reprends tout ce que tu viens de me dire, c'est au final extrêmement compliqué. Parce qu'au final, dans une équipe, par essence, il y a plusieurs personnes. Par essence, il y a des personnes qui ont des attentes qui sont différentes, donc qui ont des besoins d'environnement qui sont différents. Et comment on peut créer, en fait, un environnement global qui réponde à toutes ces idées pour pouvoir justement faire matcher les personnes entre elles et avoir l'équipe parfaite ? C'est hyper compliqué.
Alors, tu as deux façons de créer des environnements. Soit tu as ton idée et t'essayes de la partager, et puis chacun, il comprend ce qu'il peut, et va se créer sa propre représentation, il va y avoir des dissonances d'un peu partout, et ça te crée des états de tension. Ou alors, tu accompagnes les individus sur la façon dont ils vont se représenter cet environnement-là. T'es pas juste là, tout spread, on va le faire en français, partager tes idées. Tu es là pour les accompagner à se créer la représentation de l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Et c'est là où souvent on a tendance à vouloir focaliser. Alors, il faut focaliser sur l'humain, mais à vouloir trop focaliser exclusivement sur l'humain. Je te rappelle qu'on est des organismes vivants qui devons en permanence nous adapter à des environnements. En tant qu'organisme vivant, on focalise sur l'organisme vivant. Et cette focalisation sur l'organisme vivant fait qu'on oublie qu'il s'adapte à un environnement. Mais en guidant la façon dont l'individu va se créer la réalité de l'environnement, déjà on commence à partager une base commune. Et ensuite, t'as plus qu'une fois que cet environnement est partagé par tous, et attention, les représentations évoluent en permanence. Donc c'est vraiment un accompagnement régulier pour s'assurer que la représentation de l'environnement reste commun à tous. À ce moment-là, on peut commencer à se concentrer sur les états de tension des uns et des autres. Est-ce que c'est impossible ? Non, loin de là. Par contre, ce qu'il faudrait réussir à définir, c'est qu'est-ce qu'une équipe parfaite ? C'est quoi une... Parce qu'on s'adapte à des environnements, mais avec une finalité, un objectif.
Une équipe parfaite, pour moi, c'est une équipe qui travaille en symbiose. Et le problème qu'il y a, c'est que si tu prends... Idéalement, pour que ça puisse être le plus simple, il faudrait que tu prennes des clones qui ont les mêmes attentes au même moment. Du coup, tu as un environnement qui, on va dire, est relativement stable et relativement bien. Tu ne te prends pas vraiment la tête sur la manière de la représentation de chacun et donc, du coup, sur l'agilité, la flexibilité mentale que peut proposer ton environnement pour justement que tout le monde se sente bien à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Mais pour moi, une bonne équipe est une équipe qui est diverse parce que c'est les différents points de vue qui vont faire évoluer. Et donc, justement, les différentes attentes en même temps qui vont faire évoluer la chose et qui vont faire que tu auras une certaine stimulation à l'intérieur. Mais en même temps, ces différences font que tu as des attentes différentes. Donc, que tu dois avoir une agilité qui soit vraiment hyper... Enfin, un environnement global ou tout du moins une représentation possible qui soit hyper flexible pour que ça puisse fonctionner. Donc, pour moi, une bonne équipe, une équipe diverse, mais qui fonctionne en symbiose. Donc, du coup, c'est quand même hyper compliqué. Même si jamais je reprends... et là, je fais mon extrapolation et je m'arrêterai parce que sinon, je pourrais en parler.
Vas-y.
Il y a plein de choses. Mais oui, c'est ça, il y a plein de choses. C'est qu'au final, tu vois, si tu reprends l'environnement humain, tu reprends un principe d'environnement basique qui serait par exemple l'eau, l'océan, qui est un environnement en tant que tel dans lequel il y a tout un tas d'organismes vivants qui vivent chacun leur vie en symbiose et ça fonctionne très, très bien. Donc voilà, mais est-ce que c'est possible du point de vue humain qui est quand même un peu plus complexe que ça?
Oui, mais qui dit symbiose dit pas calme.
Ah oui, mais
dans l'océan, t'as des requins, t'as des poissons qui sont bouffés les uns après les autres, il y a une chaîne alimentaire, enfin c'est pas serein, ok? C'est que tout s'équilibre au final.
C'est ça, ouais.
Bon, nous, en tant qu'humains, on a mis un peu le merdier dedans.
C'est ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on aime quand même avoir un état d'égalité au sein de cette différenciation.
C'est
quoi,
ça, mais une équipe parfaite, c'est pas une équipe équilibrée. D'ailleurs, si tu prends la notion d'équilibre, quelque chose qui est parfaitement équilibré est quelque chose d'inerte, sans vie.
Et je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je te dis que pour moi, une équipe intéressante est une équipe diverse.
Exactement. Donc, une équipe qui, pour moi, est en symbiose est une équipe qui crée des tensions. Tensions, elles ne sont pas forcément toutes aversives, hein, qu'on soit bien clair. Hein. On n'est pas obligé de se menacer point armé pour dire « Rends-moi le rapport !» Non, ce ne serait pas terrible. Mais qui va créer une nécessité de mise en mouvement. Pour moi, une équipe parfaite, c'est une équipe qui sait entretenir en permanence ses états de tension en évitant les extrêmes. Ne pas chercher à tout apaiser à 100%, faute de quoi tu arrives à l'état d'équilibre inerte, il ne se passe plus rien. D'ailleurs, je te souhaite d'être équilibré le plus tard possible dans ta vie, parce que si un jour tu es parfaitement équilibré, c'est l'état létal, hein, donc on va... Donc, il faut des équilibres instables, donc on a besoin de cette notion de tension, mais par contre, il ne faut pas que les états de tension montent à des extrêmes qui paralysent l'adaptation. C'est-à-dire que les états de tension doivent permettre à l'équipe de progresser ensemble en avant et ne pas venir s'opposer et donc, à ce moment-là, bloquer l'adaptation. Et donc, pour moi, si tu veux une équipe parfaite, ça serait une équipe qui est capable de piloter la mise en mouvement, de piloter les états de tension. Peu importe les états de tension qu'il peut y avoir, ils sont tellement multiples, tellement variés. Il suffit que tu aies passé une mauvaise nuit, tu ne vas pas être le même bonhomme le lendemain que si tu as réussi à dormir à 8 heures, nickel, au calme. Donc, ces états de tension bougent en permanence. Par contre, il faut vraiment des personnes qui sachent accompagner ces états de tension pour en faire un facteur qui amène l'équipe à avancer vers l'objectif donné en partageant un environnement commun.
Mais du coup, c'est quoi la solution ? C'est d'avoir du management qui soit hyper, hyper intéressant, mais du management, je parle à plusieurs niveaux, hein. Ce n'est pas un manager direct, c'est d'avoir du management global de structure d'entreprise qui fasse que tout le monde justement peut se diriger de ça avec des managements intermédiaires qui fassent avancer, ou c'est que tu construises un environnement dans lequel des personnes puissent s'auto-manager, enfin... avancer ensemble d'une manière bienveillante mais tout en ayant ces états de tension, qu'est-ce que tu construirais, qu'est-ce qui serait le plus idéal pour toi?
Les deux, parce que là tu me parles de deux choses. J'en reviens à la même chose, on est des individus, des organismes vivants qui devons en permanence nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Là-dedans, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a un travail sur l'humain, il y a un travail sur l'environnement. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'interaction entre les deux. Déjà pour moi, là, il y a un point qui est fondamental à comprendre, c'est que ces états de tension, chez nous, ils ne sortent pas de nulle part. Ces états de tension, c'est la façon qu'a trouvé la nature pour nous amener à se mettre en mouvement. Et c'est des états de tension de satisfaction addictif, satisfaction addictive, et de tension aversive. Les états de tension aversifs, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est par définition aversif, ça va être le conflit, ça va être la contrariété, ça va être la peur, ça va être l'anxiété, ça on n'aime pas ça. Okay, mais par contre, donc ça, c'est ce qu'on va essayer de réduire au maximum. Parce que c'est ça, souvent, qui met le bazar dans les équipes ou dans la mise en mouvement. En revanche, on a des états de tension de satisfaction addictive. On a besoin, notre corps, si on fait schématiquement, il a besoin en permanence de pouvoir produire de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et des endorphines. Ce sont des molécules, certains des neurotransmetteurs, d'autres des neurohormones, qui, en concentration non suffisante dans notre organisme, nous poussent à se mettre en mouvement pour trouver les conditions de déclenchement. Et quand elles se déclenchent, ça nous amène une vraie satisfaction. Et tout ce qu'on fait dans la vie sont des stratégies de satisfaction addictive ou d'évitement aversif, tout. Mais on n'a pas les mêmes sensibilités. Par exemple, si on prend les shoots de dopamine, moi personnellement, je vais essayer de trouver des shoots de dopamine en essayant d'atteindre en permanence de nouveaux objectifs. Mais il y a des gens qui ont des stratégies complètement différentes. Par exemple, tu peux te prendre des shoots de dopamine en... Qu'est-ce que tu fais déjà le samedi? Oui, cocaïne, LSD, héroïne, crack, tout ça. Tu vois, ça aussi, ce sont des stratégies dopaminergiques. Ah, le vendredi, ouais. C'est pour ça que je ne te voyais plus en ce moment. Soit. Et donc, donc, si tu veux, pour avoir un même déclenchement... on peut avoir des stratégies de déclencheurs qui sont très différentes. En admettant qu'on soit tous identiques dans la répartition, enfin dans les intensités de tension, qu'on ait tous besoin du même taux de dopamine, d'ocytocine, sérotonine ou d'endorphine, donc on va tous développer des stratégies d'acquisition qui vont être différentes. Mais en réalité, dans les faits, non seulement on a des stratégies de déclenchement qui sont différentes, mais en plus on a des sensibilités différentes. Si je te le fais simple, la dopamine dans les grandes familles, tu as tout ce qui est optimisation de ressources, atteinte d'objectif. Okay, ça, c'est toutes les conditions de déclenchement, en simplifié, c'est les conditions de déclenchement de la dopamine. L'ocytocine, c'est tout ce qui va être en rapport avec le lien social. C'est ce qui... On va produire de l'ocytocine en présence des autres et dans l'interaction aux autres, en créant du lien. La sérotonine, c'est tout ce qui va être reconnaissance de qui je suis ou de ce que je revendique être. Donc, quelqu'un qui n'arrête pas de claironner « c'est moi le patron », n'est pas quelqu'un qui est blindé de sérotonine. C'est quelqu'un qui en manque, qui en a besoin. C'est quelqu'un qui crie « j'ai soif ». Donc, ce n'est pas parce que le mec qui crie « j'ai soif » en permanence qu'il boit beaucoup d'eau. Au contraire. Et les endorphines, c'est toutes les nécessités d'apaisement. Ramener le corps. Okay, ça, c'est les grandes familles. Eh bien, certaines personnes vont être très sensibles à l'ocytocine. Il va leur falloir beaucoup d'ocytocine pour satisfaire ces états de tension. Et donc, il va lui falloir un environnement qui va être très oxytocinergique. D'autres personnes vont avoir besoin en permanence de sérotonine. Et sous différentes formes. Donc ces personnes-là, il leur faut des environnements, des systèmes qui naturellement répondent à ces états de tension-là. Quand tu réponds aux états de tension de satisfaction addictive d'un individu, eh bien tu crées de la satisfaction, de l'engagement, etc. etc. Et du coup, vu que tu es dans ces états de satisfaction, tu n'es plus en réaction aversive. Les réactions aversives, c'est tout ce qui va être... Alors, les risques d'intégrité physique, psychologique, bon... Et j'espère qu'on en est de moins en moins là, mais tout ce qui va être incertitude, imprévisibilité, incohérence, l'effort, tout ça sont des états de tension aversifs. Si quelqu'un a des fortes potentialités de satisfaction addictive, c'est-à-dire des environnements et des interactions humaines qui lui permettent d'avoir ces déclencheurs de ces états de tension de satisfaction addictive, alors il est moins concentré sur les états de tension aversifs. Et donc, il va avoir un comportement d'engagement qui fait avancer. Si ce n'est pas le cas, eh ben on le voit dans beaucoup de systèmes.
Mais du coup, ma question qui suit, c'était de savoir, est-ce que les jeux sont pipés dès le départ ou est-ce qu'il y a une évolution possible ? Par rapport à ce que tu racontes, je pense qu'il y a un peu des deux, en fait. C'est-à-dire que les jeux sont pipés dès le départ, dans le sens où tu ne vas pas changer le fonctionnement intime de la personne. C'est-à-dire que tu ne vas pas changer une personne qui a besoin de sérotonine ou d'ocytocine, tu ne vas pas la changer physiologiquement. Donc, du coup, ça ne changera pas. Par contre, ce que tu peux faire évoluer, c'est la compréhension, justement, de tes personnes pour arriver à cet espace, à cet environnement plus symbiotique et donc, du coup, pouvoir répondre à certaines demandes en comprenant les personnes. Donc, au final, tu peux complètement... Alors, c'est un peu compliqué, mais au final, tu peux complètement construire l'équipe parfaite ou l'environnement pour l'équipe parfaite au fil du temps. Si ce n'est qu'il faut qu'il s'adapte justement à ce que tu as voulu construire au préalable, donc que ça soit adaptable à ton entreprise. Mais au final, c'est faisable.
Ah, complètement. C'est totalement faisable. Et alors, quand tu me dis on ne peut pas changer complètement quelqu'un, oui, à court terme. Mais à moyen et long terme, oui.
Parce que de toute façon, physiologiquement, tu changes.
On change. Nos stratégies de satisfaction addictive, ouais. Nos stratégies d'évitement aversif bougent avec le temps. Par exposition à l'environnement, le cerveau reprogramme tout ça.
Donc du coup, tu veux dire que l'environnement peut quand même reprogrammer le cerveau et donc du coup, physiologiquement, changer les attentes de la personne.
Totalement. Et on peut absolument tout reprogrammer là-dedans. Après, est-ce que c'est la fonction d'une entreprise de reprogrammer l'origine de tous les comportements humains d'une personne ?
Non, mais pour créer son équipe symbiotique. Et pourquoi voilà. Pas ? Pourquoi pas ? Et parce si que de toute la... façon, tu vas dans le sens de l'intérêt aussi de la personne. Parce que si tu la reprogrammes de manière à ce qu'elle se sente mieux au quotidien, parce que justement, son environnement est capable de produire ce qu'elle attend, ça devient intéressant.
C'est ça, c'est un jeu de tempérance. C'est un jeu de tempérance. Et donc, si tu veux, à court terme, pour moi, c'est le... Je ne vois pas aujourd'hui un recrutement en RH sans avoir un profilage des états de tension d'un individu. C'est parce que, en fait, le problème, c'est quand on demande à une personne quelles sont ses qualités, quelles sont ses compétences, elle ne nous raconte pas réellement ses états de tension. Elle nous raconte ce qu'elle se raconte à elle-même. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un, tu présentes une image d'un petit chaton, là, tu dis, oh, et puis il est vraiment trop mignon, le petit chaton. Et là, tu peux être sûr, la personne en face, elle dit, oh, il est trop mignon. Et là, tu lui demandes pourquoi il est trop mignon, le chaton. Elle va te dire, oh, parce que regarde, ces grosses papates, et puis ces petites moustaches, ces petites oreilles, machin, oh, je craque. Non, c'est faux. Pourquoi est-ce que la personne a cette mise en mouvement-là particulière, c'est une stratégie qui va produire beaucoup de cytocine en elle. Et que cette personne est hyper sensible à l'ocytocine. Mais elle va venir, elle a besoin de le rationaliser. Pourquoi ? Parce que ces états de tension, ils se passent dans notre cerveau, il faut entre 40 et 230 millisecondes. Donc les états de tension sont déjà déclenchés, le corps en fait a déjà produit une réponse, et ensuite il va conscientiser. Mais quand il conscientise, en fait, on se crée une représentation. Il nous faut juste une raison. Et d'ailleurs, si tu dis à la personne, si on reprend l'exemple du chaton, on se dit, oh, parce que c'est grosse papate. Mais regarde, on ne voit pas les papates là sur la photo. Ah ouais, merde. Ah bah non, mais en fait, ça doit être les petites moustaches. Attends, excuse-moi, tu viens juste de changer de raison. Un instant. Et donc, les gens n'ont pas accès, et nous, enfin, personne n'a accès directement, si tu veux, à ces états de tension. C'est nous qui les étudions, on a tout un jeu de travail, de compréhension, d'observation, etc., qui nous permettent de découvrir en fait, ces états de tension de l'individu. Et une fois que, quand la personne a fini l'entretien et que tu as pu cartographier ces états de tension, tu vas pouvoir voir en fonction de ces états de tension si l'environnement déjà à la base peut lui convenir, c'est-à-dire amener des conditions de déclenchement de satisfaction. Et de vérifier aussi que, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un individu, attention, on va faire de nous au cerveau. La personne recrutée va s'adapter à l'environnement. Okay, l'environnement, c'est l'environnement physique. Mais l'environnement, les membres, les personnes qui composent cet environnement font partie de l'environnement de l'individu. Okay, et c'est juste que ce sont des variables beaucoup plus dynamiques dans un environnement. Et il va falloir que tout ça s'harmonise et qu'on connaisse aussi les niveaux de sensibilité aversive de l'individu. Si par exemple, la personne est hyper, hyper sensible à l'imprévisibilité, t'évites de lui mettre un poste où dans la demi-heure qui suit elle sait pas ce qu'elle va faire parce que là ça va être l'enfer pour elle, ça va lui créer des états de tension aversifs énormes, donc du stress et après toutes les pathologies qu'on connaît derrière.
Je pense que les RH sont prêts pour pouvoir justement traiter de ces sujets parce que ça semble être quelque chose qui est quand même particulier, ça semble être un traitement, un exercice qui est particulier. Et est-ce que tu penses que les RH sont prêts à deux niveaux? Premièrement, alors peut-être ils le sont un peu plus prêts pour comprendre leurs équipes une fois qu'elles sont en place, Ça, c'est une première question. Est-ce qu'elles sont prêtes également à comprendre les candidats? Et donc, du coup, c'est des techniques qui sont, à mon avis, beaucoup plus particulières et beaucoup plus compliquées à mettre en place, parce que c'est un temps beaucoup plus court. Et donc, voilà. Et donc, du coup, est-ce qu'elles sont prêtes à pouvoir mettre en place cet environnement et ces équipes parfaites, entre guillemets?
Alors, pour être prêt, il faut déjà savoir que ça existe.
Ben, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis ça.
Ça c'est... Ouais. Mais par contre, toutes les personnes dans les RH qu'on a formées là-dessus n'en reviendraient pour rien au monde en arrière. C'est parce que ça ouvre un... C'est comme si tu essayais d'analyser un site web juste avec ce qui est affiché à l'écran. Et c'est ce qu'on a toujours appris, en fait, au RH. Le site web qui est affiché à l'écran, c'est ce que la personne te renvoie comme image, c'est le discours qu'elle te raconte, etc. Et quand tu ne sais pas qu'il y a un code derrière, bah, tu essayes de te concentrer sur l'image. Mais là, d'un seul coup, on explique que derrière, il y a un code. Et que ce code explique pourquoi ça s'affiche de telle manière sur un écran classique d'ordi, pourquoi ça s'affiche de façon différente sur un smartphone, pourquoi ça va s'afficher, tu vois, et d'un seul coup, on découvre le code qui est derrière. Et en fait, là, à ce moment-là, nous, on explique au RH comment on accède au code et comment on lit ce code. Et d'un seul coup, tu commences à faire, enfin, ça te change complètement ton regard, ton métier, et ça te donne une efficacité de dingue.
Et alors, on n'est pas là pour faire ta promo, mais ça se passe comment? C'est long, c'est fastidieux, ça se passe comment?
C'est l'œuvre d'une vie à peu près. non, plus de façon simple, pour juste donner une idée, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Il faut une vingtaine d'heures de formation.
Ah, ok, donc ça se fait.
Ça se fait même très bien.
Ça se fait et ça peut être hyper intéressant parce que du coup, ça t'enlève un nombre de pain par la suite, ça t'améliore ta productivité, ça améliore tout. C'est-à-dire que c'est en mesure de te faire créer justement cette équipe symbiotique au-delà du simple hard skills et tout dont on a besoin, on est bien d'accord, mais ça t'amène à tout ça.
Oui, et puis de pouvoir justifier les choix qu'on fait. C'est souvent difficile de pouvoir justifier un N plus 1, j'ai fait ça, pourquoi? Ah, je sais pas, je le sentais bien. Non, là, tu peux... Boum, c'est très analytique. Hein, c'est de, voilà, on a tel candidat ou telle personne, et il est sensible à ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, dans l'environnement, ça répond qu'à une moitié, et je sens qu'il vaudrait mieux qu'on ait ça aussi comme déclencheur. C'est pour ça que j'ai pensé à mettre ça en place pour pouvoir répondre à ces natures de déclencheur.
Ouais, forcément, ça donne...
Blah, ça pose.
Pour toutes celles et ceux qui sont... qui aimeraient, hein, de toute façon, je mettrai dans le podcast et tous les liens de Guillaume. Vous pourrez aller voir, lui poser des questions. Il se fera un plaisir de vous répondre sur le sujet. Parce que clairement, ça peut être intéressant. Enfin, ça va clairement dans le bon sens, hein, on est bien d'accord.
Complètement, complètement. Et puis, de plus en plus de boîtes commencent vraiment maintenant à l'intégrer. Et c'est vraiment un game changer. Donc, si tu veux, c'est pas tant est-ce que c'est une option ou pas. C'est que de toute façon, on tend vers ça. On y tend. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut y aller petit pas par petit pas et avoir toute une période d'incompréhension de certaines choses, ou alors que d'un seul coup on se dit voilà, on fait vraiment le turn, voilà.
Dernière question, mais qui va porter à vrai sujet, l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut répondre justement à cette demande? Est-ce que ça peut simplifier le travail de compréhension? Qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'au final, tu nous parles de sujets qui sont des sujets factuels, tu nous parles de sujets qui sont des sujets scientifiques, on parle d'un état des lieux de la personne, physiologique et tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un système qui pourrait faire que l'intelligence artificielle accompagne énormément sur ce sujet-là, sachant que, on commence à le savoir, enfin tout le monde commence à le savoir, l'intelligence artificielle, on parle de mathématiques, on parle de probabilités, donc on parle de choses qui sont factuelles. Est-ce qu'on pourrait intégrer des programmes qui pourraient déceler justement l'état global de la personne et ses attentes claires sur le sujet?
Totalement, mais tu l'as très bien dit, c'est un outil qui va pouvoir accompagner. Il ne fera pas la place d'eux. Tout simplement parce que derrière, il faut réussir à comprendre que ce qui va rendre vraiment opérant ces outils, ce n'est pas tant les réponses qu'il va donner, mais les questions qu'il va pouvoir nous permettre de générer. Pour te donner une idée là, sur l'approche dont je te parle, sur les états de tension, nous, on a identifié à peu près 37 déclencheurs différents. L'IA, par exemple, peut nous aider à travers l'analyse d'un texte à sentir déjà un peu la nature des états de tension. Ça ne fera pas tout. Ça va nous donner, comme tu l'as très bien dit, des probabilités. Ça va nous permettre de créer plus facilement des hypothèses. Mais après, ça sera à nous de venir valider ces hypothèses en fonction de l'environnement. Pourquoi ? Parce que la source des informations, d'où vient la source ? Est-ce que ce sont des énormes bases de données ? Ou est-ce que dans ces énormes bases de données, on est venu prendre de la donnée précisément dans cet endroit-là de façon spécifique, mais l'environnement de captation de données influence la donnée, etc., etc. Donc, ça va nous filer des... ça nous accompagne, ça fait gagner du temps, ça nous permet de formuler des hypothèses, mais on aura toujours besoin de l'opérateur humain derrière pour pouvoir finaliser le
Là-dessus, je suis d'accord. Et toi, tu utilises déjà l'IA dans tes...
Énormément.
C'est vrai ?
Moi, je travaille avec l'IA entre 1 et 2 heures par jour avec, quoi.
Ah, trop... Et donc, pour faire tes analyses aussi de personnes, pour commencer à te donner des idées, pour toutes ces choses-là, ça te sert ?
Alors, ouais, ça me sert. Moi, je m'en sers énormément comme terrain d'exploration. Parce que les IA évoluent extrêmement vite. Nous, on travaille sur des IA d'analyse en ayant injecté dans l'IA ce dont on a parlé tout à l'heure, ça s'appelle chez nous l'inéquation décisionnelle. Donc en rentrant les données de l'inéquation, mais encore une fois de plus, pas pour que l'IA nous génère des réponses, mais pour qu'elle nous aide à trouver les bonnes questions. Et ouais, on l'utilise énormément.
Et du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer, alors tu sais, parce que bon, nous on travaille avec Oak sur le côté compétences, développement des compétences, on sert de l'IA plus sur des aspects factuels. Là, on n'est pas du coup sur l'aspect dont on parle, hein, tu vois, qui est un aspect factuel, mais beaucoup plus subtil dans le côté appréhension de l'environnement et compagnie. On est en train, nous, d'imaginer... Pardon. On est en train, nous, d'imaginer un outil qui permettrait de mélanger toutes les personnes à l'intérieur de l'IA, de prendre l'ensemble de leurs compétences, toutes les personnes de l'entreprise, de faire le point sur l'ensemble des jobs de l'entreprise et de voir quelle personne serait la plus susceptible en termes de compétences d'avoir quel poste. Donc, on est en train de jouer là-dessus, ce qui est assez marrant, ce qui peut être aussi assez, on va dire, déconcertant, parce que si demain, tu te retrouves avec une personne qui vient de rentrer, qui serait la mieux positionnée pour devoir gérer la boîte dans son ensemble, forcément, c'est déconcertant. Mais l'idée, c'est vraiment de se projeter, de se dire, voilà, quelles seraient les personnes les plus adaptées. Est-ce qu'on peut imaginer que l'IA puisse te permettre justement demain de te poser ces questions-là sur le côté environnemental et symbiotique des équipes, c'est-à-dire que quelle personne est à mettre à quelle place par rapport à ses attentes et par rapport à justement l'environnement global qu'elle aurait, que ce soit un environnement physique ou un environnement de personnes et un environnement structurel. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement qu'elle te permette à te poser toutes ces questions et à créer l'entreprise idéale au final ?
Oui, les questions, pas les réponses. C'est bien ça que je te dis. C'est-à-dire que on peut, par exemple, imagine, tu dis, par exemple, voilà, la personne est à un poste de réception. Donc la personne est en accueil client direct. Et quel profil de personne il me faudrait pour arriver là-dessus ? Oui, mais ce que n'a pas l'IA, c'est les données exactes de la réception. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui filtre en amont ? Est-ce qu'elle est vraiment en premier contact ? Est-ce qu'elle est exposée à l'extérieur ? Est-ce que les gens arrivent à ce poste-là en agressivité ? Ouais, mais imagine le nombre de facteurs. C'est monstre. En revanche, ce que l'IA peut venir générer, ça va être quelles questions je dois me poser par rapport... Bah justement, tu vois, les questions que j'étais en train de te générer sur le poste de réception, c'est que compte tenu de la sensibilité de cette personne... Compte tenu de la nature qu'on connaît déjà de ce poste-là, mais il manque toute une série d'informations, quelles questions l'IA peut me ramener que moi, du coup, je vais pouvoir me poser pour pouvoir effectivement vérifier le matchage entre cette personne-là dans cet environnement-là. Mais il y a tellement de données à prendre en compte que l'IA ne pourra pas amener une réponse sûre et certaine. Et la probabilité, si tu veux, elle est... J'aurais du mal, moi, par exemple, sur une IA aujourd'hui, si on devait faire un truc comme ça, avoir une probabilité supérieure à 20-25%, si tu veux. Par contre, que l'IA te génère toutes les questions pertinentes que tu peux te poser, oui, clairement. Et en tant qu'opérateur humain, bah oui, t'es sur place et là, tu peux y répondre dans le...
Après, le côté données, je suis moins d'accord parce que l'IA est faite justement pour traiter de la donnée, donc on est capable. Il faut la rentrer. Donc je pense que tu as du coup une IA à deux vitesses. La première qui te pose les questions, qui te fait te poser les questions à poser, et donc du coup à intégrer à l'intérieur d'un deuxième batch qui pourrait être diffusé. Et après, par contre, là où je suis d'accord, c'est que ça te donne des probabilités et qu'après, c'est à toi de jauger humainement les probabilités par rapport à ce que tu sais. Mais du coup, ça donne des perspectives qui sont...
super intéressante.
C'est ça, plutôt très intéressante.
Complètement. C'est vraiment, vraiment hyper, hyper intéressant. Et ça nous amène à... En fait, ça nous permet de traiter la complexité. Et quand je vois aujourd'hui ce qu'on fait sans tous ces outils et les approches qu'on a aujourd'hui, moi, je vois ça comme l'âge de pierre par rapport au monde de demain. C'est en gardant toujours l'humain en opérateur central.
On va terminer parce que sinon on pourra encore une fois en parler pendant des heures parce que j'aurais des milliards de questions. Enfin voilà. Mais du coup, est-ce que tu penses, et je te pose juste une question, tu y réponds, on termine dessus. Est-ce que tu penses qu'on sera en mesure de créer l'entreprise idéale demain ? Et quand je parle d'entreprise idéale, C'est sur les deux aspects. C'est-à-dire, pour moi, une entreprise idéale, c'est une entreprise qui gagne pas forcément de l'argent, mais qui gagne en fait ce qu'elle a envie de gagner. Donc aujourd'hui, dans le monde capitalistique, c'est de l'argent. Dans le monde de demain, ce sera peut-être des dividendes climat ou autre chose. Mais une entreprise en fait qui arrive à son but final en ayant une symbiose globale entre les personnes à l'intérieur. Est-ce que tu penses que demain, c'est possible ?
On y arrive déjà aujourd'hui, en fait.
C'est vrai ?
Ouais.
Sur, t'as des exemples de boîtes sur lesquelles...
Bah déjà, commencer par ma boîte. Mais pour moi, une entreprise idéale, c'est une entreprise qui crée l'environnement dans lequel l'individu s'épanouit pleinement. Et une fois que tu comprends comment l'individu s'adapte à un environnement, bah, t'as plus qu'à créer l'environnement qui correspond aux individus, et c'est d'une fluidité extrême.
Donc en fait, l'idée, c'est juste de la développer maintenant. C'est de l'évangéliser et de la développer.
C'est exactement ça.
Ok, donc notre travail, en fait, il est de montrer à tout le monde que ça existe et que c'est faisable.
Ouais, moi, l'enjeu, c'est que demain, tout le monde le fasse. Mais est-ce qu'on saura le faire demain ? Oui, puisqu'on sait déjà le faire aujourd'hui.
Ah, trop cool. Donc des hyper bonnes perspectives et ultra optimistes, j'adore ça. C'était un très bon moment, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Guillaume, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Bah écoute, je pense que je te réinviterai parce qu'on a encore plein de choses à se dire.
Avec plaisir.
Mais en tous les cas, je vous mettrai toutes les informations sur Guillaume. Et voilà, qu'on retienne ça, c'est que l'entreprise idéale, l'entreprise symbiotique, celle dans laquelle les gens se sentent bien, elle est possible aujourd'hui. Il faut juste y croire, se former pour et pouvoir avancer. Et on a tous les outils pour le faire. Donc faisons en sorte que tout ce qui est en train de changer aujourd'hui soit une réalité demain pour tout le monde et pas que pour peu d'entreprises et pas que pour quelques entreprises.
Un grand merci à toi et puis un grand merci à vous tous et avec grand grand plaisir je reviendrai.
Merci beaucoup, bonne journée tout le monde.
Merci à vous.
Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.